Malgré une blessure au début de la dernière saison de tennis, eh bien, le Québécois Félix Auger-Aliassime a terminé cette année-là au 110e rang mondial. Un résultat intéressant pour lui. Il était en rencontre avec les médias montréalais aujourd'hui. Jérémy Filosa était sur place. Bonsoir, Jérémy.
Salut, Mario.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait au menu? De quoi Félix Auger-Aliassime avait envie de parler en rétrospective de sa dernière année?
Ben, premièrement, il était très satisfait de cette première saison. Là, tu l'as mentionné au début. Ben, que voulez-vous? Il y a eu une petite blessure, ce qui a fait en sorte qu'il a raté quelques tournois qui ne lui ont pas permis d'atteindre son objectif, justement, d'entrer dans le top 100 mondial, mais il est confiant que ce n'est qu'une question de temps. Si tu veux bien, on va l'écouter immédiatement là-dessus.
Voulu mieux. C'est sûr que l'objectif de percer le top 100, ça a été beau. Après, tu vois, si à chaque année de ma carrière, j'arrive à atteindre mes objectifs, c'est presque impossible. Tu vois, je veux dire... Là, je finis quand même à la porte du top 100. Je sens que j'ai le niveau. Je suis peut-être à 2-3 matchs, 2-3 victoires. Si on pense à la Coupe Rogers ou on pense même en début d'année à Rotterdam, je suis peut-être à quelques victoires du top 100. Donc, je sens que j'ai le niveau, j'ai ma place parmi ces joueurs-là. J'en ai battu plusieurs. Donc, non, c'est encourageant pour la suite. Là, j'ai fini quand même dans une bonne position cette année. Puis, on verra ce que ça donne en 2018, en 2019.
Alors voilà pour Félix Auger-Aliassime qui, Mario, a gagné cette année 2 tournois Challenger. Il va probablement en faire un peu moins l'année prochaine là, parce qu'il a trouvé qu'il avait un horaire quand même assez chargé. Mm-hmm. Il s'est qualifié pour le US Open en gagnant ses 3 matchs de qualification. Il a gagné quand même 290 000 $ cette année. C'est pas rien là, pour un jeune homme de 18 ans. C'est quand même de
bonne course. Il a travaillé pour, au moins, il est payé au résultat. Les joueurs de golf et les joueurs de tennis, oui. Là, on va te dire une affaire, leur boss, c'est pas des contrats de 5 ans. Fait que t'as affaire à gagner des tournois ici et là ou avancer dans les tableaux.
Définitivement. Puis il a reçu un très beau compliment de la part de John McEnroe qui avait dit de lui à la télévision qu'il le voyait éventuellement dans le top 5 mondial. J'ai posé la question, qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration puis est-ce que tu as eu la chance de le croiser en personne? On écoute sa réponse.
Je me suis dit, que quelqu'un dise comme ça veut dire quelque chose quand même. Je pense pas que ça me met une pression supplémentaire. Je pense que déjà, moi, je me mets quand même une assez bonne pression. J'ai des autres ambitions, donc... Moi aussi, j'espère un jour être dans le top 5. Donc, je veux dire, ce qu'il dit, que ça vienne de sa part, c'est sûr que ça veut dire quelque chose. Donc, j'essaie de voir ça du côté plus positif. Ouais.
Est-ce que tu l'as revu après ça? Est-ce que tu l'as croisé? Est-ce que tu lui as parlé?
Oui, je l'ai vu une fois à l'US Open dans le vestiaire. Là, il était venu un peu dans le vestiaire. Donc, il me disait qu'il était un fan de ce que je faisais et qu'il me souhaite le meilleur pour la suite de ma carrière.
Alors voilà pour Félix Auger-Aliassime. Et en parlant de compliments, Mario, on peut parler de Louis Borfiga, qui est le responsable du tennis élite ici au Centre d'entraînement national. Il l'aime beaucoup. Hein. Il aime sa progression, sa maturité. Il nous a parlé de beaucoup de choses dans son jeu. Mais surtout, il lui a fait un beau compliment en le comparant à un autre grand du monde du tennis. On l'écoute.
Mais je pense qu'il est quand même, je dirais, en pole position. Il est vraiment très, très mature pour son âge. Il a une personnalité, il me fait penser à Yannick Noah par sa présence. Quand Yannick arrive, déjà tout le monde fait ça. Et puis Félix, c'est pareil. Quand il rentre dans une pièce, Félix, on le regarde parce que rien que par sa présence, il a quand même une sacrée personnalité.
Ouais, c'est vrai. Puis en plus, il est tellement grand, Mario, tu peux pas le manquer quand il rentre dans une pièce. Là, tu te dis, ouais, non, là, lui, il fait quoi là, dans la vie? Il doit faire quelque chose de spécial, c'est sûr. Il a toute une prestance, le jeune homme. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il risque d'alléger son lot de travail pour la saison prochaine, même s'il a bien fini l'année en force, mais il sentait qu'il s'ennuyait de sa famille. Il nous l'a dit qu'à 18 ans, il a trouvé ça dur. Toute une année complète, pratiquement, là, loin de sa famille et tout ça. Donc, il va prendre un peu de temps de repos puisqu'il y a une petite blessure à un genou, rien de très grave, et il va reprendre l'entraînement en Floride dès le mois de décembre.
Très bien, Jérémy. D'autres choses à ajouter par rapport à cet événement-là?
Non, c'est à peu près ça. Puis demain, Mario, on va se reparler beaucoup de boxe, étant donné qu'en matinée, il y aura un point de presse de Jean Pascal, tôt en matinée, vers 10h30. Et ensuite de ça, je vais me déplacer pour un point de presse de Eye of the Tiger Management pour leur gala à eux du 15 décembre au Madison Square Garden. Donc, beaucoup de boxe au menu pour demain.
Ben, un gros merci, Jérémy. Une excellente soirée, mon cher.
Salut.
Juste en attendant qu'on établisse la communication avec notre ami Alex Agostino, je vous mentionne que Le'Veon Bell ne jouera pas donc un seul match en 2018. C'est clair, il y avait jusqu'à 4 heures aujourd'hui pour se rapporter aux Steelers de Pittsburgh. Et il a maintenu le cap, donc ne va pas s'aligner avec les Steelers. Il y en a beaucoup qui critiquent le joueur. Quand un joueur se met dans une situation semblable, c'est sûr qu'il s'expose à la critique. On ne comprend pas comment un athlète peut laisser 14,5 millions de dollars sur la table parce qu'il veut négocier un contrat à long terme qui est favorable pour lui. Yashin l'a vécu dans le temps avec les Sénateurs d'Ottawa. Nylander le vit actuellement. C'est d'autres raisons, d'autres types de négo, mais au bout de la ligne, c'est qu'ils veulent le contrat qu'ils souhaitent obtenir et pour toutes sortes de raisons. Et dans le cas de Le'Veon Bell, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'appuient publiquement aux États-Unis, mais quand on regarde ce qu'on lui offrait du côté des Steelers de Pittsburgh, les Steelers sont une organisation qu'on qualifie d'old school, de la vieille école. Ils veulent pas trop transgresser ou de faire de passe-droit pour un ou l'autre de leurs joueurs, semble-t-il. Et en salaire garanti, parce que ce ne sont pas des salaires garantis comme par exemple les contrats de la Ligue nationale, les 84 millions de carry, il va toucher les 84 millions à moins qu'il prenne sa retraite en cours de route. Mais dans le cas de Le'Veon Bell, de ce que j'en ai compris, c'est que les Steelers n'ont jamais voulu aller au-delà d'un 17 millions de dollars garanti sur une offre de 5 ans. Et lui, il arrive à l'autonomie pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour 2019. Alors, oui, c'est sûr que ça prend des couilles en béton d'une certaine façon pour être capable de laisser 14,5 millions sur la table, mais en même temps, il est sûr qu'il se blesse pas cette année en attendant ou en regardant les matchs à la télévision, en continuant de s'entraîner et va toucher le pactole probablement dans sa prochaine négociation comme joueur autonome. Alors, au plan personnel, je respecte sa décision, bien que c'est peut-être ça qui va priver les Steelers de Pittsburgh peut-être de gagner des grands honneurs, de gagner un Super Bowl. En même temps, je sais pas jusqu'à quel point c'est pas devenu une motivation du côté des Steelers de Pittsburgh de se dire « Hey, on peut gagner sans lui » et ça renforce la fameuse notion d'équipe qu'il n'y a jamais personne de plus gros que l'équipe. Le Canadien le prouve d'ailleurs d'une certaine façon avec l'absence, puis pas parce que chez Weber se prend pour quelqu'un de plus gros que l'équipe, pas du tout, mais on est privé d'un élément important depuis le début de l'année. Le Canadien joue bien. Il y a deux gros noms qui ont quitté l'organisation, puis il y en a qui pensaient que c'était la fin du monde, c'était la catastrophe. Et le Canadien joue bien sans ces gars-là, même que notre meilleur producteur de points est le résultat d'une de ces transactions-là. Alors, c'est pour ça que je suis un peu en accord avec l'opinion de François Gagnon tout à l'heure quand on a abordé le sujet William Nylander du côté des Leafs de Toronto. C'est sûr et certain qu'il y a tellement d'appétit pour des joueurs spéciaux et Nylander a prouvé que c'était un joueur spécial en attaque qu'il y a des équipes qui seront prêtes à donner beaucoup, beaucoup pour aller le chercher et faire du même coup des Leafs une équipe peut-être encore plus redoutable parce que bien qu'ils sont en bonne position actuellement au classement, on peut pas parler d'une équipe actuelle. C'est sûr que, tu sais, je le dirais pas trop fort, là, ou je le dirais pas si j'étais leur adversaire, mais ça serait pas encore, en tout cas, mon choix à moi comme équipe favorite pour remporter la Coupe Stanley. C'est encore une équipe qui a des failles, qui, dès qu'elle est privée d'un élément, c'est vrai pour beaucoup d'équipes. Stamkos, on l'a vu quand il a pas été présent pendant un bout de temps avec le Lightning de Tampa Bay, ben, ça a coûté une participation aux séries. Vous connaissez les histoires qui ont touché le Canadien, j'ai pas besoin de les répéter. Mais on va voir comment ça va se passer du côté de Toronto dans la progression et l'évolution de cette équipe-là. Mais c'est une des excellentes équipes dans la Ligue. Là. Je veux pas faire fausse route. Là. C'est vraiment l'une des très solides équipes. Mais en même temps, ils ont 46 buts d'accordés. Ils ont un bon différentiel. Ils en marquent, mais aussitôt qu'un joueur tombe en offensive, ça peut affecter leur production offensive. Il semble qu'on n'est pas en mesure de rejoindre Alex pour l'instant, mais ce que je voulais souligner, c'est que, dans le fond, Shohei Ohtani, c'est un gars qui a attiré mon attention énormément quand il est arrivé du baseball japonais pour venir évoluer en Amérique. Et j'étais très curieux de voir comment finalement le baseball majeur l'avait accueilli. C'est un phénomène, un gars qui lance, qui frappe des circuits. Bien, vous l'avez vu, il a été choisi recrue de l'année dans la Ligue américaine hier. Et puis, c'est Acuna qui a mérité le titre dans la Ligue nationale. On y reviendra peut-être demain alors qu'Alex viendra nous voir en studio. On va s'arrêter le temps d'une pause et on est de retour aux amateurs de sport.